cerveau, danse un baiser.
Et tu peux taper.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent, Marie Richeux avec Amélie Nothomb. Ti la 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 la, ti ta la ta, ti la ta ti ta 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 ta, ti ta 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 ta, ti la 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 la, di la 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 la, da di la 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 la. Avoir un corps, c'est ce qui peut nous arriver de mieux, car la subtilité vient de lui. La nuance dans la pensée, l'avance prise sur la pensée, vient du corps. Dans votre dernier texte, Amélie Nothomb, vous hallucinez un face-à-face de Jésus-Christ avec son désir le plus singulier, une soif pas encore étanchée, la soif du jour de sa crucifixion. Une soif qui atteste de son incarnation, de sa passagère humanité et de sa vie. La trinité de ce texte n'est donc pas le Père, le Fils et l'Esprit, mais la mort, l'amour et la soif comme trois formidables façons d'être présent, à quoi l'on rajouterait pour être plus complet ou comme nécessité préalable, le pardon et la solitude. C'est un Christ libre de contredire les évangiles, un Christ qui a de la bienveillance même envers ceux qui ont déformé ses propos, un Christ qui commence véritablement par s'aimer lui-même avant d'aimer les autres. C'est ce Christ-là qui parle dans votre roman Amélie Nothomb. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir Marie.
Soif est paru en cette rentrée littéraire aux éditions Albin Michel. Et puisque j'utilise ce mot halluciné, je vais vous dire d'où il vient. Il vient d'une archive tout juste trouvée de Claude Faraghi, 1989. Il parle de vent et d'écriture. On l'écoute.
Dans les meilleurs moments, disons, de la création littéraire, le moment le plus délicieux, c'est le moment où le sujet écrivant éclate et a une amnésie totale pour être totalement dans l'hallucination sensorielle de la fausse désignée par le mot.
Oui, mais vous revenez.
Malheureusement.
Vous revenez, vous êtes là, vous l'expliquez. Ouais. Ça prouve que forcément l'artiste, quelque part, est forcément un peu... L'artiste, ou ne plus écrire du tout.
Ne plus écrire, vous essayez. Oui. Mais ça s'est terminé par des gueules de bois telles en Espagne qu'il a fallu arrêter. Je veux dire, une des façons de faire taire la langue, c'était d'avoir une gueule de bois.
Et pourquoi alors prendre la décision de ne plus écrire?
Parce que j'avais l'impression de devenir un écureuil. Oui, d'abord pour voir ce que ça donnait, ce qu'on vit. Quand il n'y a plus de langage possible, quand il n'y a plus d'écriture, on vit des choses. Hein. C'est complètement incohérent, c'est complètement funèbre. Le langage, c'est quand même fait pour les vivants. Donc quand on quitte l'île des morts, on reprend sa plume. Et c'est ce qui m'est arrivé.
Oui, mais enfin, c'était pas 6 mois, votre aventure, c'était 6 ans.
Oui, enfin, c'était plus compliqué, parce que j'ai requitté l'Espagne, je suis allé vivre en Bretagne, où je me suis enfermé dans une école désaffectée sur un tertre en Bretagne.
Toujours avec l'idée de ne plus écrire, si quand même.
Si j'avais écrit, coincé par le vent, avec un chien qui n'osait même plus sortir parce qu'il y avait une tempête infernale et qui pissait dans la cuisine, moi je me suis mis à pisser des mots. Enfin, je veux dire donc...
Ah oui, donc de tout ça, on est ressorti quand même la nécessité de cette respiration quotidienne, c'est-à-dire le mot sur la page.
Oui. Est-ce que c'est le mot sur la page ou est-ce que c'est le fait que du mot passe en soi? Je crois que c'est... Parce qu'au fond...
Oui, les deux sont peut-être liés.
Je ne sais pas si j'ai un amour-passion pour les objets qui résultent de tout ça. Ce qui m'intéresse, c'est le travail dans son mouvement. Vu la façon dont je le pratique, c'est vrai que ça ne coupe pas du tout les relations amoureuses que je puisse avoir, mais ça m'oblige à organiser mon temps autrement, puisque je ne peux travailler que dans cette espèce d'hors-temps qui est de 3h du matin à 5h30, où les horloges des interdits sociaux, du temps, de la comptabilisation de notre société est arrêtée. Et je suis dans un état de somnambulisme très, très éveillé. Et c'est le moment d'écriture, puis après j'oublie que j'ai écrit.
On commence donc, Amélie Nothomb, par une hallucination sensorielle, l'idée d'un somnambulisme éveillé, l'idée aussi que le langage c'est pour les vivants. Cette archive de 1989 de Claude Faraghi. Peut-être pour vous demander dans quel état physique vous étiez en écrivant Soif.
Oh, dans un état extrêmement critique. Ça faisait 50 ans que j'attendais ce moment-là. C'est très loin d'être le premier livre que j'écris, mais je pense que tous les livres que j'ai écrits, même si je ne cherche en aucun cas à les rabaisser, étaient des exercices de musculation destinés à être capable un jour d'écrire Soif, parce que je savais, il y avait préméditation, je savais que je voulais écrire mon livre sur Jésus et que c'était ça qui m'importait. Et si je ne cessais de repousser l'échéance, c'est parce que je ne me sentais pas assez musclée, je n'étais pas encore l'athlète de l'écriture que je rêvais d'être. Avril 2018, je me dis, ben ma vieille, t'as plus que 50 ans, tu crois vraiment que tu vas devenir plus athlétique que tu ne l'es? Non, tu n'es qu'un misérable vermisseau, t'as pas les épaules, mais c'est pas grave, n'attends plus, parce que maintenant tu vas commencer ta détérioration, bientôt tu n'auras plus la possibilité physique d'écrire Soif. Donc tant pis si t'as pas les moyens, tu t'y mets, parce que sinon tu rates ta vie, et maintenant tu te foires pas, parce que j'ai assez écrit dans ma vie pour savoir que quand on écrit un livre, il n'y a pas de deuxième chance. Soit ça fonctionne tout de suite, soit ça fonctionnera jamais. Donc vous imaginez l'état d'angoisse qu'on est quand on attend depuis 50 ans d'écrire quelque chose et qu'on s'y met enfin. Donc j'étais à la fois au comble de l'angoisse métaphysique, le mot n'est pas trop fort, mais en même temps au comble de la jouissance et de l'excitation, parce que quand même je vivais, c'est le cas de le dire, l'expérience cruciale de ma vie. Elle était considérablement au-dessus de mes forces, mais je le faisais quand même. Donc j'étais tout le temps dans cet entre-deux de me dire « c'est trop fort pour moi, ça m'écrase, j'en ai pas les moyens, c'est trop dur pour moi, c'est au-dessus de moi ». Et en même temps, dans ce paradoxe, de me dire « oui, c'est vrai, mais je le fais quand même ».
Ça veut dire que c'était pénible ?
C'était terriblement exaltant et terriblement écrasant. Quand je dis pénible, comprenons-nous bien, il faut comprendre le mot pénible, pas du tout dans le sens de souffrance, mais dans le sens de difficulté. L'état qu'on est dans lequel, quand on fait quelque chose de beaucoup trop difficile pour soi, c'est un état que j'aime extrêmement en fait. J'aime ce qui est difficile. Rilke dit « il faut s'en tenir au difficile parce que c'est là qu'il y a le plus de vitalité ». Il a tout à fait raison. On ne se sent jamais aussi vivant que quand on fait quelque chose de beaucoup trop difficile pour
soi. Parce qu'il y a le paradoxe qu'on est en train de le faire. C'est-à-dire que vous formulez à la fois l'idée que c'est trop difficile pour vous, mais qu'en même temps vous le faites.
Oui.
Donc par conséquent, si l'équation tient debout, c'est que ce n'est pas si difficile pour vous.
Croyez-moi, j'étais tout le temps juste sur la lame de rasoir. C'est trop difficile, mais la lame de rasoir, je parviens encore à l'avaler. Essayons une lame de rasoir de plus. C'était exactement ça. Donc n'en déduisez surtout pas que ce n'était pas difficile. C'était très difficile, mais j'en étais capable quand même.
Ça veut dire quoi le jour où vous arrêtez de pouvoir avaler la lame de rasoir ?
Alors, c'est ce que j'y suis arrivée. Hein. Je veux dire, maintenant j'écris d'autres livres que Soif. Soif était le 93e que j'écris. Je suis en train d'écrire le 93e.
Ouais.
Oui, je suis en train d'écrire le 96e. Donc ça prouve qu'il y a une vie après Soif. Et même si ce que j'écris m'importe encore, c'est quand même moins difficile. Ça, tout a l'air facile de toute façon quand on a écrit Soif. Donc maintenant, disons que je fais plutôt des... j'ai un peu l'impression de sauter à la corde, ce qui en effet est certes un peu difficile pour moi, mais beaucoup
après plus... avoir sauté dans le vide.
Voilà.
Vous n'avez plus d'horizon alors? Parce que vous aviez cet horizon d'un jour écrire Soif, ce livre sur le Christ, ou plutôt avec le Christ, on y reviendra. Désormais, vous avez quoi comme horizon littéraire à minimum?
Je ne suis pas, aussi négative que vous. Je n'ai plus un but fixe, mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas un but fixe qu'on n'a pas de but. On est plus simplement, maintenant le but est inconnu. Mais c'est bien aussi d'avoir un but inconnu.
Vous le visualisiez comment quand vous imaginiez un jour devoir écrire Soif, devoir écrire ce livre où Jésus-Christ parle?
C'était terrifiant. Je pense que c'est pas pour rien que j'ai repoussé l'échéance si longtemps. À chaque fois c'était non, c'est pas possible. C'était comme aller sur la lune sans fusée, vous voyez. C'était trop difficile pour moi. Mais je l'ai quand même fait. Au moment de l'écriture, ne me demandez pas si je pensais que j'y parvenais. Tout ce que je voyais, c'est que je tenais debout. Mais quant à savoir si ce que j'écrivais avait le moindre rapport avec ce que j'avais, je vais pas dire en tête, mais dans le corps, je n'en savais rien. J'étais dans l'inconnu. Quand j'ai eu fini de l'écrire, tout à coup, je me suis aperçue, tiens, mais il est sorti tout entier. Mais c'est vrai, je l'ai fini, je l'ai fait. Bon, maintenant, surtout ne le regardons pas, parce que si tu le regardes, ça va pas être possible. Je l'ai mis de côté pendant plus de 2 mois. Et puis 2 mois après, je l'ai repris. Je me dis, maintenant tu te forces à le lire, ça va être affreux, mais lis-le. Je l'ai relu. Ça tenait la route. Je me suis dit, au fond, j'ai peut-être atteint mon objectif.
Vous disiez, je me fiais à ce que j'avais dans le corps. C'était cette boussole-là, Amélie Nothomb, que vous suiviez ?
J'écrivais au corps, là, très très clairement. Bon, je dis pas que ma tête ne jouait aucun rôle, mais ma tête jouait le rôle d'un organe, voilà, d'un organe du corps. En l'occurrence, du réservoir de culture biblique. Bah, parce que je ne voulais pas écrire non plus ce livre tout à fait en dehors des évangiles. Il se trouve que j'ai beaucoup pratiqué les évangiles, et même si je m'en distancie, je ne m'en distancie pas totalement. Il y a des choses totalement canoniques. Et même plus de choses totalement canoniques qu'on ne le croit dans ce livre.
Ça veut dire que vous diriez avoir écrit avec votre tête comme un autre organe, cet organe de culture, et que dans cet organe de culture, il y avait votre propre connaissance des textes sacrés, votre propre connaissance des évangiles.
Exactement, qui importait, mais qui n'importait pas plus que ce que pouvaient m'apporter mes pieds, mon estomac, ou j'ose le dire, ma vessie, en écrivant ce livre. Il y a un moment qui a choqué les gens, c'est qu'à un moment, Jésus, d'ailleurs sans emphase, dit simplement qu'il a besoin de faire pipi, et puis il va faire pipi, c'est important.
Oui, c'est d'ailleurs ce mot-là qui est utilisé, qui est presque un mot enfantin, mais qui est trivial, oui. Qui est faire pipi. Mais parce qu'il y a quelque chose qui revient, en tout cas peut-être au moins 2 ou 3 fois dans ce texte soif, c'est « ce n'est pas une métaphore ». À plusieurs reprises, votre Jésus-Christ dit « ce n'est pas une métaphore ». Il y a quelque chose qui veut être présent au corps, présent à la terre, présent au présent dans ce texte-là.
C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Je me dis que Jésus, quand il parle, on a beaucoup dit qu'il parlait par parabole. Une parabole, ce n'est pas une métaphore, c'est encore autre chose. J'ai idée qu'il a un langage tellement incarné que son langage ne peut en aucun cas être métaphorique. Quand il dit « la foi, c'est le ver d'eau », ce n'est pas une métaphore. La foi, c'est vraiment le ver d'eau. Et de fait, quand on a crevé de soif et qu'on boit le plus stupide des vers d'eau, il n'y a pas de sensation plus directement mystique que celle-là.
On va y venir très en précision en entendant un extrait de votre texte. Mais puisque vous dites qu'il y a des gens qui ont été choqués en lisant dans la voix de Jésus, je me permets d'employer cette réalité littéraire, Amélie Nothomb, faire pipi. Moi, je me suis dit, en refermant ce texte-là, que vous ne vous étiez probablement pas préoccupé une seule seconde de choquer qui que ce soit en faisant parler Jésus.
Vous avez totalement raison. C'était vraiment la dernière de mes préoccupations. Non que ça ne... Bon, je n'ai aucun plaisir à choquer les gens, mais je dois dire qu'au moment de l'écriture, je ne me suis même pas posé la question. Je voulais vraiment, comme vous le disiez tout à l'heure, parler avec Jésus, être au plus près de Jésus, de la parole de Jésus que je sens en moi. Et dans ces paroles-là, je pense qu'il y a des moments métaphysiques, mais il y avait aussi faire pipi.
Est-ce que vous diriez que c'est un moment d'une conversation qui a commencé il y a très longtemps et qui se poursuit, ce texte-là ?
C'est tout à fait vrai, puisque j'avais 2 ans et demi quand mon père m'a parlé de Jésus pour la première fois et que j'ai pensé, mais tonnerre ! C'est donc lui qui me parle dans la tête, parce que bébé, il y avait quelqu'un qui me parlait dans la tête, et je me disais, mais qui c'est ? Qui me parle ? Et puis, mon père vient m'expliquer, tu sais, il y a Jésus, et, bon, j'appartiens à une famille catholique, hein, il n'y a pas de mystère, et voilà, il nous aime, etc. Et moi, j'ai eu aucun mystère à ce moment-là, j'ai dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr.
C'était juste un éclairage.
C'est Jésus qui me parle, et j'étais très contente d'ailleurs de ce dialogue qui s'est poursuivi de façon plus ou moins chaotique au cours de ma vie, mais qui ne s'est jamais interrompu.
Est-ce que vous avez eu du mal à trouver cette voix, je veux dire d'un point de vue littéraire, puisque c'est ça qui agit dans le texte, de bout en bout, c'est une sorte de monologue intérieur de Jésus qui à la fois s'adresse mais ne s'adresse qu'à lui-même. Est-ce que vous avez peiné à lui trouver une traduction littéraire ?
Mais j'espère ne pas choquer si je dis pas tellement. Je veux dire, cette voix m'était extrêmement familière. Je le rappelle, j'avais 2 ans et demi la première fois que j'ai eu cette voix en moi. Bon, encore fallait-il trouver un équivalent phonique. C'est ça pour moi, trouver une écriture littéraire de la chose, c'était trouver l'équivalent en son de ce qu'on a toujours senti à l'intérieur de soi. Je n'ai pas tellement peiné à la trouver. J'étais extrêmement concentrée. J'ose dire que j'étais au sommet de mes moyens. Moyennant quoi, je n'avais pas d'hésitation, c'était ce son-là.
Mais est-ce que c'est pas toujours ça ? Est-ce que écrire, c'est pas toujours traduire une voix qui nous parle à l'intérieur et dont il faut trouver phoniquement la possibilité de la transmettre aux autres ?
Oui, bien sûr que c'est toujours ça, mais on peut se foirer. J'ai aussi des manuscrits que j'ai portés à leur terme, mais qui sont ratés, que je ne les ai pas publiés, mais parce qu'il y a des couacs, parce qu'il y a des moments où on ne perçoit plus le son, ou parce qu'on fait des fausses notes. Je vous dis, je suis très très peu optimiste par rapport aux erreurs. Je pense que si on se trompe dans un texte, l'erreur est irrattrapable. Je poursuis quand même parce que mon acte de foi va au-delà de mon erreur. Simplement, je sais que le texte est raté.
C'est un acte de foi d'écrire un texte?
Oh oui, de toujours. Parce que soit on pense qu'on est un génie et qu'on a quelque chose de considérable à apporter à l'humanité, je n'ai jamais pensé ça. Soit on se dit, je suis habité par quelque chose de plus grand que moi et je vais essayer de me laisser traverser de bout en bout par cette chose et c'est ce que je fais, auquel cas, oui, c'est un acte de foi.
Vous disiez, Amélie Nothomb, que vous étiez très concentrée dans cette archive par laquelle on commence. Il y a la description d'espèces de horaires en dehors de la société, en dehors des horloges des relations sociales entre 3h et 5h du matin, dont parlait Farahi. Pour vous, c'est une concentration qui est arrivée quand, à quel moment, et est-ce qu'elle a changé des autres situations d'écriture de vos précédents romans?
Ça a été en effet la plus grande découverte de ma vie. J'ai commencé à écrire à 17 ans, mais pas du tout comme ça et pas du tout dans l'intention de devenir écrivain. En fait, je pense qu'il n'y a rien de plus banal que de commencer à écrire à 17 ans. On est tellement mal dans sa peau, on cherche tellement quelque chose, enfin, à canaliser quelque chose en soi que j'ai trouvé l'écriture. Simplement, c'était juste n'importe quoi. Ce qui a été moins n'importe quoi dans mon cas, c'est que d'abord je l'ai fait de façon secrète et puis j'ai persisté. Au lieu de guérir vers 22, 23 ans parce que finalement la crise se calme et qu'on trouve une méthode de vie, moi c'est à ce moment-là que le virus a gagné. C'est-à-dire que j'ai trouvé une méthode pour aller encore plus loin. Puisque j'avais assez vite remarqué en écrivant à 17 ans que je n'y arrivais pas finalement, que je n'avais pas en moi la force d'y arriver, que c'était pas ce que je recherchais. Donc, j'ai assez vite pensé, mais essaye d'autres méthodes. Peut-être que tu n'as pas trouvé le bon horaire, peut-être que tu n'as pas trouvé la bonne substance. Donc j'ai essayé toutes les substances et toutes les horaires, ce qui est pas idiot, puisque les substances ne donnent pas les mêmes résultats en fonction des horaires où on les prend. Et finalement, je suis tombée sur des choses toutes très légales, puisque ma substance est le thé, c'est celle qui me produit sur moi l'ivresse sèche dont j'ai besoin pour écrire. Encore faut-il que ce thé soit ingurgité à jeun et au saut du lit, vu que au saut du lit, on a une énergie très particulière qu'on n'a pas aux autres moments de la journée. Et ce saut du lit, chez la très grande insomniaque que je suis, se situait extrêmement tôt le matin. Donc, au plus tard, à 4h du matin, voire beaucoup plus tôt. La seule différence, c'est qu'auparavant, quand j'avais des insomnies, je restais dans mon lit à paresser ou à me torturer. Tandis que là,
pour soif.
Voilà. Non. C'est une chose que j'ai trouvée bien avant soif. L'horaire, je l'ai trouvé quand j'avais 21, 22 ans. Donc, depuis que j'ai 21, 22 ans, donc, je vis dans cet horaire qui, en effet, bon, qu'il est difficile d'intégrer à une vie dans le monde, puisqu'à côté de ça, j'ai une vraie vie avec des êtres humains, et du travail. Mais quand même, je trouve toujours ce moyen de me réveiller à cette heure-là.
Ça veut dire qu'il y a dans l'acte d'écrire pour vous, et peut-être de manière générale, une sorte de deux choses imbriquement liées,
oui.
Solitude et présence, très forte présence. C'est aussi un texte sur ça, soit.
Bien sûr, c'est exactement ça. Pour avoir cette présence-là, il faut que je respecte ces préceptes-là de solitude, mais on est forcément seul à 4 heures du matin. De concentration extrême qu'on ne peut avoir, enfin que je ne peux avoir que en écrivant à cette heure-là.
Ivresse sèche de l'écriture.
Aucune jouissance n'apporte celle que procure le gobelet d'eau quand on crève de soif. Le seul évangéliste à avoir manifesté un talent d'écrivain digne de ce nom est Jean. C'est aussi pour cette raison que sa parole est la moins fiable. Celui qui boit de cette eau n'aura plus jamais soif. Je ne l'ai jamais dit. C'eût été un contresens. Ce n'est pas un hasard si j'ai choisi cette région du monde. Il ne me suffisait pas qu'elle soit politiquement déchirée. Il me fallait une terre de haute soif. Aucune sensation n'évoque à ce point celle que je veux inspirer que la soif. Sans doute est-ce pour cela que nul ne l'a éprouvée autant que moi. En vérité, je vous le dis, ce que vous ressentez quand vous crevez de soif, cultivez-le. Voilà l'élan mystique. Ce n'en est pas la métaphore. Quand on cesse d'avoir faim, cela s'appelle satiété. Quand on cesse d'être fatigué, cela s'appelle repos. Quand on cesse de souffrir, cela s'appelle réconfort. Cesser d'avoir soif ne s'appelle pas. La langue, dans sa sagesse, a compris qu'il ne fallait pas créer d'antonyme à la soif. On peut étancher la soif, et pourtant, le mot étanchement n'existe pas. Il y a des gens qui pensent ne pas être des mystiques. Ils se trompent. Il suffit d'avoir crevé de soif, un moment, pour accéder à ce statut. Et l'instant ineffable où l'assoiffé porte à ses lèvres un gobelet d'eau, c'est Dieu. C'est un instant d'amour absolu et d'émerveillement sans borne. Celui qui le vit est forcément pur et noble, aussi longtemps que cela dure. Je suis venu enseigner cet élan, rien d'autre. Ma parole est d'une simplicité telle qu'elle déconcerte. C'est si simple que c'est voué à l'échec. L'excès de simplicité obstrue l'entendement. Il faut connaître la transe mystique pour avoir accès à la splendeur de ce que l'esprit humain, en temps normal, qualifie d'indigence. La bonne nouvelle, c'est que l'extrême soif est une transe mystique idéale. Je conseille de la prolonger. Que l'assoiffé retarde le moment de boire. Pas indéfiniment, bien sûr. Il ne s'agit pas de mettre sa santé en danger. Je ne demande pas de méditer sa soif. Je demande qu'on la ressente à fond, corps et âme, avant de l'étancher. Tentez cette expérience. Après avoir durablement crevé de soif, ne buvez pas le gobelet d'eau d'un trait. Prenez une seule gorgée. Gardez-la en bouche quelques secondes avant de l'avaler. Mesurez cet émerveillement. Cet éblouissement, c'est Dieu. Ce n'est pas la métaphore de Dieu, je le répète. L'amour que vous éprouvez à cet instant précis pour la gorgée d'eau, c'est Dieu. Je suis celui qui arrive à éprouver cet amour pour tout ce qui existe. C'est cela, être le Christ.
Amélie Nothomb, Romain de Bec de Lièvre lit un extrait de Soif, paru donc chez Albin Michel. Et en l'écoutant, c'était pareil en le lisant et en le relisant, ce passage, je me suis dit que peut-être plus encore qu'un texte où parle Jésus, il s'agissait là d'un manifeste pour la soif, comme étant. Et Jésus est juste, j'ai envie de dire, le corps par lequel ça passe, pour la soif, comme étant la désignation d'un désir le plus singulier.
C'est tout à fait ça. Je vous remercie de le comprendre comme ça, parce que c'est tout à fait ça. Et c'est beaucoup moins une généralité qu'on le pense. Cet été, je discutais avec mes neveux, qui sont des enfants, qui ont 11 ans, 13 ans, et je me suis aperçue qu'ils ignoraient la soif. Et qu'il y ait comme ça énormément de gens qui n'ont tout simplement jamais eu soif de leur vie, parce que partout où ils vont, on leur propose tellement de boissons, qu'ils n'ont pas le temps d'avoir soif. Alors, en même temps, on peut s'en réjouir, mais moi, je leur ai dit, écoutez...
Il y a aussi beaucoup de gens qui ont très, très soif.
Oui, mais c'est très injuste, évidemment. Mais sans chercher à solutionner cette cause-là qui me dépasse, je m'intéressais à mes neveux auxquels la soif était inconnue. Je leur disais, vous savez, ça serait peut-être bien que vous connaissiez cette sensation, parce que c'est intéressant, passer à côté de quelque chose. Bon, je ne sais pas si j'ai réussi à les convaincre, je ne suis jamais que la tante chiante. Mais je suis persuadée qu'il n'existe pas d'élan mystique plus absolu que la soif. Donc on a celui-là, pourquoi en chercher un autre ?
Vous disiez que ça avait été une expérience cruciale, l'écriture de ce texte-là, l'écriture de Soif, comme si ça avait été pour vous le lieu de cette trouvaille. Alors peut-être que c'est une trouvaille qui date de bien avant l'écriture de ce texte, Amélie Nothomb, mais comme si finalement ce texte-là était le lieu de la désignation, que c'est ça aussi qui vous définit, que c'est ça aussi qui vous fait être présente au monde, et que c'est comme ça.
C'est exactement ça, c'est-à-dire que oui, bien sûr, c'était ma hantise depuis toujours, mais il a quand même fallu que je la formalise, que je la mette en forme pour pour trouver. Il y avait énormément de choses que je savais déjà, mais aussi longtemps que je ne les avais pas écrites, je ne les avais pas trouvées. Et il y a même une solution que j'ai trouvée carrément en écrivant, c'est-à-dire que une des choses qui m'a fait écrire ce livre, c'est l'incompréhension totale de la crucifixion. Comment est-ce que Jésus, que je vois comme un être tellement supérieur, a pu accepter la crucifixion? Pour moi, c'est incompréhensible, ça me dépasse et même ça me choque. Donc, j'écris la Passion du Christ, mon Christ est sur la croix, et il se rend compte alors de son erreur, et là je me dis, bon, là je vais m'approcher au plus près de ce qu'il a pu ressentir à ce moment-là, et comment il se tire d'un truc pareil, comment, prenant conscience de son erreur, il se tire d'un truc pareil. Eh bien, c'est là que je l'ai trouvé. Il avait vraiment fallu que je l'écrive pour le trouver.
Et la soif.
Et la soif, mais la soif, bon, là, il y avait, je savais déjà avant, encore fallait-il le mettre en bout.
Qu'est-ce qu'il trouve quand il trouve ça? Qu'est-ce qu'il trouve quand il trouve la soif?
Alors, la soif, il l'a d'emblée. Ce n'est pas pour lui, il est très gâté du côté de la soif. Ce qu'il trouve sur la croix, c'est le pardon. Le pardon, bon, bien sûr, il en avait une notion. Ça fait partie de ce qu'il est venu enseigner sur Terre. Mais vous savez ce que c'est, aussi longtemps qu'on ne l'a pas vécu et qu'on ne l'a pas vécu de façon vraiment forte, ça ne veut rien dire. Et là, il découvre que le pardon, en fait, c'est pas pour les autres. Le pardon, c'est pour soi. Et que c'est là que c'est vraiment difficile, quand il s'agit de se pardonner quelque chose à soi-même. Et pour le coup, ce qu'il a à se pardonner à soi-même n'est pas un détail, c'est une faute colossale. Ce qu'il a à se pardonner à lui-même, c'est la crucifixion, et c'est-à-dire le commencement d'un empoisonnement à échelle de civilisation.
Cet empoisonnement, on le comprend dans ce que vous écrivez, on reviendra évidemment sur le pardon plus longuement parce que ça a une force et une importance dans ce texte, c'est un empoisonnement qui a trait au sacrifice. Oui. Il y a une partie de la mécanique du texte qui veut comprendre comment le sacrifice devient structurel dans la société des hommes. Comment ça devient, pour reprendre vos mots, un poison qui répand son fiel. Est-ce qu'une partie de ce texte commence par votre... colère contre ça?
Oui, bien sûr, bien sûr. Jusqu'à mes 12 ans et demi, bon, je savais que Jésus avait été crucifié, mais honnêtement, ça m'était égal. Ça, je n'y pensais jamais. Si je l'aimais, c'était pas pour ça. Je m'en foutais de comment il était mort. Et puis, à 12 ans et demi, entrée violente et horrible dans l'adolescence, je découvre la souffrance. Tout à coup, mais en fait, Jésus a été crucifié, et c'est super important, on nous présente ça comme quelque chose de tellement important que c'est quand on nous montre Jésus, les trois quarts du temps, il est sur une croix. Donc la com de l'Église, c'est la croix. Hein. Et là, ça a été, pour moi, ça a été le début d'une crise qui a mis très 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 longtemps à se régler, à supposer qu'elle soit réglée. Comment Jésus, au degré de spiritualité, de compréhension et d'amour qui est le sien, a pu commettre une erreur pareille, qu'au catéchisme, les bons pères nous expliquent que c'est pour nos péchés, ça ne m'étonne pas du tout. Mais lui, il le sait que ça ne tient pas debout, que ce n'est pas possible, que ce sacrifice non seulement ne sauve rien, mais nous perd, mais nous condamne, nous donne un exemple atroce et qui va ô combien faire école.
Il y a quelque chose qui n'opère pas, en tout cas dans ce que vous racontez, Amélie Nothomb, c'est que votre propre souffrance d'individu ne trouve pas un miroir intéressant dans la souffrance du Christ. Que cette souffrance-là ne vient pas sauver la vôtre, racheter la vôtre, qu'au contraire, elle la révèle.
Mais bien sûr, parce que, enfin, quand même, il faut se rappeler qu'on nous a présenté cette souffrance comme un acte d'amour, comme vraiment ce que Jésus a fait de plus sublime, de plus surhumain, de plus directement divin, il l'a fait pour nous sauver. Mais comment? D'abord, est-ce que j'ai l'air d'être sauvée? Ben non. Ensuite, mais même ne tenons même pas compte de mon expérience, ni de l'expérience des autres. Ça se voit qu'aucun d'entre nous n'est sauvé. Hein. Mais ne regardons que la sienne. Enfin, il a accepté la pire souffrance possible, en plus la plus humiliante, la plus avilissante. Tout ça pour nous perdre, finalement. Donc, ce n'est admissible que si on considère que oui, Dieu est un homme et tout simplement, il s'est trompé. Ça, on peut admettre, parce que en effet, il est humain de se tromper. Mais comment lui se tire de là, se mettre dans sa peau quand il prend conscience d'une erreur pareille, parce que forcément, il en prend conscience. Enfin, c'est un être supérieur, il est intelligent. Il sait qu'il se trompe. Comment il se sort de là?
Il y a une manière dont il se sort, c'est de se rappeler qu'il a un corps.
Oui.
Se rappeler qu'il a une incarnation et que cette incarnation-là, elle est notamment révélée par la soif qu'il éprouve dans un moment de très grande douleur. On pourrait imaginer, et vous l'écrivez à Mélie Nothomb, plein d'autres souffrances.
Oui.
Mais c'est cela qui le rappelle à sa vitalité d'une certaine manière.
Mais oui, parce que c'est la souffrance de la soif, bon, bien sûr, elle est très intense, mais elle est totalement reliée au plaisir. Parce que c'est le moment où on imagine le mieux ce que ce serait de boire, c'est quand on crève vraiment de soif. Ce qui fait que cette souffrance, si grande soit-elle, est un appel à la vie extraordinaire et un acte d'amour extraordinaire. Donc il est sauvé par sa soif.
Vous écrivez que c'est un désir, cette soif, qui n'est pas recouvrable par la jouissance. Qu'en fait, l'eau n'étant jamais vraiment complètement la soif. Et que c'est ça qui est assez beau.
C'est ça qui est génial. C'est que, enfin, j'ai peut-être une particularité physique personnelle, c'est que, quand on boit, quand on crève de soif, c'est vrai que le plaisir qu'on a dépasse tout, mais c'est un plaisir inextinguible. Chaque fois que je l'ai éprouvé, mais j'ai bu, je me suis dit, s'il y avait toute l'eau de la planète devant moi, mais je boirais tout. Et je ne cesserai jamais d'être dans cet état-là.
Mais alors ça, vous le voyez, vous, davantage comme une pulsion de vie que comme un refus. Parce que, en fait, on pourrait lire aussi les choses d'une toute autre manière. Ça pourrait être « je refuse que quelque chose soit étanché en moi ». Vous voyez les choses du côté du désir.
Ah oui, je trouve ça magnifique. Quel exemple de désir. Je voudrais que tous les désirs soient de cette nature. Ça, c'est de l'amour. Ah non, y voir un acte de refus, ça ne me viendrait même pas à l'esprit.
Parce que vous écrivez que la crucifixion n'est pas de l'amour. Et c'est une des choses que produit votre texte qui peut, si on en revient à la manière dont vous ne vous êtes pas soucié de savoir si vous allez choquer, ça pourrait être choquant pour des personnes.
Ah, je peux vous le garantir que depuis que le livre est paru, je reçois des lettres absolument scandalisées.
Vous écrivez noir sur blanc, la passion du Christ n'est pas un acte d'amour, ou si c'est considéré comme un acte d'amour, alors je décide que je le refuse.
Mais bien sûr. Alors je reçois les réactions des chrétiens, et en particulier des chrétiens intégristes, sont assez intéressantes. Hein. Ils sont absolument scandalisés. Alors, soit ils m'invectivent, mais vraiment, une des choses les plus violentes que j'ai reçues, c'est « je préférerais même que vous ayez pas la foi plutôt que d'avoir écrit un livre pareil ». Vous vous rendez compte? Un croyant qui préférerait que vous n'ayez pas la foi plutôt que d'avoir fait cette chose horrible qui consiste à écrire soif. Alors d'autres beaucoup plus indulgents, beaucoup plus condescendants m'envoient la Bible pour les nuls, parce que visiblement j'ai vraiment pas du tout compris. Puis enfin, le cas le plus fréquent, c'est simplement, vous savez, ils appuient sur le bouton « rappel à l'ordre ». Mais non, enfin voyons, ça ne se passe pas comme ça, vous savez bien que... Puis c'est clair que vous avez lu la Bible, donc voilà. Ils vous recitent tous les passages qui expliquent ce que vous feignez de ne pas avoir compris.
Or, votre Christ prend la liberté de dire « je t'aime beaucoup, Jean », s'adressant à un grand auteur d'évangile, je t'aime beaucoup, mais vraiment tu t'es planté. Vraiment, je n'ai pas dit ça, tu fais un contresens, Jean.
Oui.
Je me permets de reprendre la parole en tant que Jésus-Christ et de te dire comment ça s'est passé.
Écoutez, je sais que c'est culotté, mais d'abord, il faut...
C'est drôle, en tout cas, je ne sais pas si c'est culotté, mais c'est drôle.
Il est à noter qu'aucun des quatre évangélistes dont on se réclame n'était là au moment de la crucifixion. C'est dingue quand même. Qu'est-ce qui les empêchait d'être là? La peur? Ah ben, dites donc, merde alors. Vous auriez eu peur, vous? Moi, j'y serais allée. Bon, ensuite. Bon, alors les gens me disent, oui, mais vous, Amélie Nothomb, quelle légitimité prétendez-vous avoir dans cette histoire? Vous avez raison, je ne suis qu'un humble vermisseau. Mais ça fait quand même 50 ans que je ne pense qu'à ça. Alors je pense que ça me donne quand même une certaine légitimité.
Mais peut-être parce que vous étiez là et présente le jour de votre propre souffrance, c'est aussi ce que dit ce texte.
Oui, c'est vrai aussi. J'étais complètement là au jour de ma propre souffrance et j'ai pas compris. Et je veux croire que toute personne qui s'est vue en situation de souffrir extrêmement se refuse de comprendre ça et refuse de voir la nécessité de ça.
Et reprendre la parole en disant « je » pour Jésus-Christ ou en disant « je » pour n'importe quelle personne ayant souffert, est un acte de foi, est un acte de reprise de pouvoir.
Oui, peut-être que c'est un acte de pouvoir un peu excessif, mais je pense qu'il m'a fait énormément de bien, c'est vrai, ça m'a fait beaucoup de bien. Et bizarrement, ça a fait du bien, bon, ça n'a pas fait du bien à tout le monde, visiblement, mais ça a fait du bien à beaucoup de lecteurs chrétiens. Beaucoup de chrétiens m'ont dit que ce livre leur a fait beaucoup de bien, mais aussi beaucoup de lecteurs pas chrétiens du tout et qui même n'en avaient rien à fiche. Et de la religion et de Jésus, et qui me disent « écoutez, je ne peux pas vous expliquer, mais ce livre m'a fait beaucoup de bien, étrangement. »
Le corps est toujours d'une certaine manière, mis à la seconde place. Je pense en particulier à Spinoza qui pourtant estime que l'esprit et le corps sont une seule et même chose, qui s'expriment de deux manières, soit en rapport avec l'étendue, soit en rapport avec la pensée. Il y a Spinoza qui réhabilite le corps et qui pense l'homme dans son unité, reconnaît malgré tout que nous ignorons ce que peut le corps. Disons que c'est un objet d'inquiétude dans la mesure où le philosophe fait souvent profession de maîtrise de soi rationnelle et il s'aperçoit que le corps n'obéit pas nécessairement aux injonctions de la volonté. De ce fait, le philosophe est troublé par le corps, trouble qu'on pourrait qualifier de physique et de métaphysique, trouble devant la puissance du corps, devant le désir qui se manifeste, devant aussi la souffrance que le corps peut manifester. Et de ce fait, le philosophe qui voudrait maîtriser son propre corps est obligé de reconnaître que le véritable maître, c'est le corps.
On est en 2002, c'est la voix de Chantal Jacquet qui est au micro de Francesca Piolo sur France Culture, maître de conférence en philosophie à l'époque à la Sorbonne, Amélie Nothomb. Je le disais et je le citais en début de cette émission, avoir un corps, c'est ce qui peut nous arriver de mieux, même si je le pense, je l'ai tiré de votre livre et c'est vous qui l'avez écrit. Quand on entend cette archive-là, on s'est dit que oui, bien sûr, il y a beaucoup eu, peut-être que c'est en train de bouger, c'est une opposition massive entre la pensée et le corps. Vous, vous écrivez avec ce texte Soif que le corps précède la pensée et que le corps amène une subtilité que parfois, entre guillemets, la pensée n'est même pas encore en mesure de recevoir.
Mais c'est tellement vrai. La meilleure exemple, je trouve, c'est la musique. La musique, pour moi, quand elle est géniale, vient vraiment du corps et raffine la pensée de façon tellement extraordinaire. Quand on ne peut pas expliquer l'élan mystique à quelqu'un, on le fait avec de la musique. La musique y arrive directement. Et la musique, je le répète, est physique. Ça ne signifie pas que la musique ne passe pas aussi par la tête, mais la tête fait partie du corps. Spinoza est parfait pour ça. Spinoza qui fait équivaloir corps et pensée, c'est quand même merveilleux. Ce n'est pas du tout ce qu'on nous a appris. Non seulement on nous a appris à séparer l'un et l'autre, mais en plus on nous a appris à mépriser l'un des deux et justement à mépriser ce qu'il y a de plus important, à savoir le corps. Je sais de quoi je parle, j'appartiens à la famille la plus catholique de Belgique. Dans le meilleur des cas, si on a un corps, il s'arrête à la ceinture. En dessous, ben, il n'y a rien.
Ce sont des lectures qui vous ont accompagné pendant l'écriture de Soif, ces lectures philosophiques, des textes qui justement se posent la question de l'existence du corps.
Au moment de l'écriture, non. Au moment de l'écriture, c'était des choses digérées depuis longtemps. Je vais pas faire semblant de connaître Spinoza sur le bout des doigts, mais enfin, c'est un philosophe qui a compté pour moi, ainsi que Nietzsche qui dit cette parole merveilleuse, le corps est une grande raison. Ça a l'air d'être un truisme, mais réfléchissez-y. Raison au sens cartésien du terme, c'est vrai. Et ces phrases m'ont sauvé de tellement d'enseignements méprisants. Il n'y a pas que la religion, hein. Platon est passé par là aussi.
Dans ce texte-là, en effet, il y a la chance d'avoir un corps, parfois la redécouverte d'en avoir l'incarnation. J'aimerais bien qu'on s'attarde sur ce mouvement-là. Est-ce que l'écriture, que vous disiez, j'ai écrit avec le corps, peut être un moment pour ça ?
Peut-être
un moment pour se dire
oui. Oui, parce que moi, l'écriture, c'est ce qui m'a permis d'avoir un corps. Vu qu'à l'adolescence, suite à toutes mes mésaventures, finalement, la seule solution que j'ai trouvée pour survivre, c'est que mon esprit est sorti de mon corps. J'ai passé des années pas dans mon corps. Et je peux vous assurer que c'était les années les pires de ma vie. Ne pas être dans mon corps, c'était affreux. Puis j'ai commencé à écrire. C'était très, très difficile à écrire alors que j'étais pas dans mon corps. Mais peu à peu, au fil des années d'écriture, peu à peu, je me suis rendu compte que je me réappropriais un corps. Et finalement, ça je m'en souviendrai toujours, j'avais 22 ans, je me suis rendu compte que j'étais à nouveau totalement dans mon corps. Je l'ai su parce que mon corps était de nouveau tout à fait chaud, ce qu'il n'avait pas été pendant des années. Et que j'avais réussi cette performance rien qu'en écrivant. J'habitais à nouveau totalement mon corps et c'est à ce moment-là que mon écriture est devenue quelque chose de beaucoup plus fort qu'elle n'avait jamais été auparavant.
Ça veut dire qu'il y a une puissance de réunification ou de réintégration du corps dans le langage ?
Oui, bien sûr. Le langage est rhapsodique au sens étymologique. C'est de l'écriture, c'est du chant qu'on coud. Rhapto veut dire coudre. Il s'agit de se recoudre. Et on ne peut le faire en effet que par un certain emploi du langage.
Il y a un moment donné, votre Jésus-Christ, mais même si parfois je me suis dit que, bon, ok, c'était lui pour vous, mais que peut-être, en tout cas pour la lectrice que j'étais, c'était pas très important que ce soit lui. En tout cas, celui qui parle dans ce texte-là dit « Quelle performance langagière je cherche à atteindre ?»
Oui. Écoutez, d'abord, je comprends très bien que pour vous, ce soit pas Jésus. Peu importe, en effet, chacun a son héros. Moi, il se trouve que c'était Jésus, vu d'où je venais, c'était normal que ce soit lui. Mais il se trouve que c'est un grand héros mythique, et peut-être que tous les grands héros mythiques permettent de faire ce travail avec soi-même. Alors, si vous me posez la question de savoir quelle performance langagière je cherchais à atteindre, mais c'est exactement celle que Faradji décrivait tout à l'heure, à savoir atteindre cette phase d'hallucination où il n'y a plus aucune différence entre le mot et la chose. Et ça, quand on vit ça, et on y arrive à certains degrés de l'écriture, c'est absolument extraordinaire.
Quelle merveille! C'est oui. Si rare dans la vie.
C'est vrai.
Une partie de la souffrance consiste justement que les mots ne se confondent pas avec la chose et qu'ils sont incapables de les dire.
Oui, et que du coup, le langage n'est que babil et n'a absolument aucun effet. Mais par contre, quand le mot coïncide exactement avec la chose, je vous assure que le pouvoir que vous avez à ce moment-là, c'est un pouvoir qui fait de vous un dieu.
Est-ce que ça s'évanouit justement dans cette archive à laquelle vous faites mention, 1989, Olivier Germain-Thomas dit à Faradji « Oui, mais vous revenez de cette hallucination, vous en revenez, vous en sortez. » Est-ce que pour vous, vous diriez que ça s'évanouit?
Oui, bien sûr. Je ne sais pas quelle espèce d'athlète il faudrait être pour rester durablement dans cet état... Et puis bon, voilà, après vous allez vivre votre vie de tous les jours, vous mettez des vêtements, vous prenez le métro, comment voulez-vous ? Et encore, j'ai remarqué, c'est pas tellement le métro qui nuit à cet état, c'est quand on commence à avoir, c'est le commerce avec les autres êtres humains qui fait qu'on retombe.
Words like violence, break the silence, go crashing in, into my little world. Painful to me, pierce right through me. Can't you understand, oh my little girl? I've wanted, I've needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm.
France Culture, par les temps qui courent. Marie Richeux avec Amélie Nothomb.
Il faut l'entendre, alors là, plus comme un processus de renonciation. Comme la psychanalyse elle-même nous fait entendre que pour mettre de l'ordre dans le chaos de nos pulsions, il faut en passer par la castration symbolique. Pour moi, la crucifixion, c'est un symbole de renonciation. Et la résurrection elle-même est un symbole tout simplement de renaissance. Par l'acceptation de la renonciation à la toute-puissance de nos instincts, nous pouvons accéder à une plus grande humanité. C'est ça la renaissance. Donc j'entends là le mythe christique à travers la crucifixion comme un processus d'évolution, mais la crucifixion ne mettant pas pour autant un terme à cette évolution. Je pense là à ce que nous disent les hindous dans leur culture, puisque l'on trouve ce thème déjà chez les hindous, des naissances successives pour pouvoir accéder à une libération de l'âme. Eh bien, nous retrouvons cette idée aussi au cours d'une cure analytique. L'être humain a à revisiter son histoire pour nettoyer les empreintes les plus troublantes et pervertissantes pour son intelligence qu'il a engrammées, afin de renaître à lui-même, cette fois-ci, dans un processus d'ouverture spirituelle et non plus de croyance populaire.
C'est la voix de Willy Barral, juste après la reprise par Sylvain Chauveau de Dépêche Mode, Amélie Nothomb. Willy Barral, psychanalyste, qui propose de lire le mythe christique comme un passage, cette fameuse passion et crucifixion que vous disiez tout à l'heure être une erreur, comme un passage vers la Renaissance, comme un abandon de la toute-puissance, comme un renoncement.
J'avoue que ça ne me convainc pas. Je ne prétends pas du tout m'y connaître en psychanalyse, mais... quand même.
Mais en crucifixion un peu.
Oui, puis ça m'énerve de ne voir qu'un symbole en la crucifixion. Je veux dire, merde, il a vraiment été crucifié. C'est une vérité historique. De voir faire une lecture positive de ça, non, c'est au-dessus de mes forces. Je pense que quand le Christ était sur la croix, il ne pensait pas qu'il vivait un symbole. Je pense qu'il est... Enfin, allez nous dire que la souffrance extrême d'un individu n'est à voir que comme un symbole. Je suis désolée, c'est au-dessus de mes forces. Je suis... probablement beaucoup trop primaire pour ça. J'étais beaucoup plus sensible à la reprise de Dépêche Mode.
Mais en revanche, vous n'êtes pas non plus sans considérer que les histoires à partir de cette fait historique que vous présentez, Amélie Nothomb, sont entrées dans le symbolique, sont entrées dans les mythes.
Oui, alors bien sûr, évidemment, tout
et
le monde...
Et que ça nous permet de réfléchir.
Je trouve formidable que les mythes appartiennent à tout le monde et que chacun en fasse sa lecture. Ça, j'y suis pour à 1000%. Mais je me méfie toujours des interprétations symboliques parce que je trouve qu'avec les symboles, on peut faire dire aux choses absolument n'importe quoi. Bon, maintenant, si ce monsieur est content avec son interprétation et si ça lui rend la vie plus facile, alors j'applaudis. Mais ça ne me rend pas à moi la vie plus facile.
Parce que vous pensez qu'on oublie trop le corps dans cette interprétation-là.
Exactement, exactement. Et puis quoi, pour libérer l'esprit? Vous croyez que vous avez l'esprit libéré quand vous souffrez comme un martyr sur la croix? Non, je pense pas.
Quand vous écrivez, pour continuer dans cette idée-là de libérer l'esprit, qu'en fait il faut faire rentrer du rien là où il y a du vacarme et que la pensée, oui, généralement c'est qu'un acouphène, oui, comment on fait rentrer du rien, Amélie Nothomb?
C'est très difficile. À un moment, je parle des miracles, je décide de prendre les miracles pour argent comptant, que le Christ a réellement accompli des miracles. Et comment il y parvient? Il y parvient en obtenant le vide. Et comment est-ce qu'il obtient le vide? En logeant entièrement sous sa peau, en atteignant cette partie que j'appelle l'écorce, c'est ce qu'on a partout sous la peau. Et je considère que c'est la partie la plus puissante de tout notre être et qu'on a accès à cette partie toute puissante de notre être uniquement si on sort totalement de la pensée, si on a un vide total dans la tête. Parfois, je parviens à atteindre cet état-là. Personnellement, j'y arrive par le contraire de la méditation, c'est-à-dire par une espèce de vitesse subreptice, je vais plus vite que ma pensée de manière à ce qu'il n'y ait pas de pensée. Et à ce moment-là, j'atteins cet état de non-pensée absolue qui est le pouvoir de l'écorce.
Ce que j'essayais de dire en introduction sur le corps a de l'avance sur la pensée. En
oui,
fait, il
ça.
A de l'avance sur nous si on le laisse passer devant.
Exactement. Ça m'énerve tellement quand j'entends des gens qui disent « Ah oui, moi je pense tout le temps », mais l'air de dire « C'est parce que je suis quelqu'un de tellement habité, sous-entendu, je suis trop intelligent, j'ai un tel cerveau, c'est un tel problème dans ma vie ». Il y a toujours de l'orgueil là-dedans, j'ai toujours envie de le dire, et en plus vous vous en vantez, alors que mais c'est notre état à tous, finalement on est tous encombrés de notre cerveau, et non, ce n'est pas du tout une richesse, au contraire, c'est la première de nos misères. Si seulement vous pouviez sortir de cet état-là, alors vous deviendriez quelqu'un d'intéressant.
L'horizon, c'est une forme de vide? L'horizon vers lequel vous tendriez, alors là peut-être pas du côté de la littérature, mais plutôt du côté de l'être, Amélie Nothomb.
Le vide zen, certainement. J'ai encore beaucoup de chemin. Là, je vous dis, je n'y parviens que quand je me glisse subrepticement dans l'écorce, mais ça c'est tellement difficile, je voudrais avoir des méthodes tellement plus simples pour y arriver.
Quand même, pour revenir à Willy Barral, que vous avez balayé d'un petit coup de pied, pas de problème, paix à son âme, il parle de renaissance. Il y a quelque chose dans ce texte-là qui a quand même attrait à ça, qui a attrait aux plusieurs vies dont nous sommes capables dans une
mais
seule
ça,
vie.
Mais ça, je suis tout à fait d'accord. Mais la résurrection, oui, bien sûr que oui. La chose que je dis, c'est pourquoi faut-il nécessairement passer par le supplice pour atteindre la résurrection ? Et je suis persuadée du contraire.
Vous pensez que vous en avez déjà vécu beaucoup, des vies ?
Oui, oui, oui. Sans même passer par la souffrance. Je ne dis pas que la souffrance m'est inconnue, mais je dis que les plus belles renaissances que j'ai atteintes, ce n'était pas par la souffrance que j'y suis arrivée.
C'est chouette.
Des miracles, j'en ai accompli. Là, je ne pourrai plus. Je souffre beaucoup trop pour accéder à l'écorce. Le pouvoir de l'écorce, je ne l'obtenais que grâce à une inconscience absolue. L'excès de ma douleur me barre désormais la route. Je jure que si je pouvais accomplir un dernier miracle, je me délivrerais de cette croix. Espèce de songe creux, vas-tu arrêter de te faire du mal ? Oui, c'est à moi que je parle ainsi. Il faut que je me pardonne. Pourquoi est-ce que je n'y arrive pas ? Parce que j'y pense. Plus j'y pense, moins je me pardonne. Ce qui empêche de pardonner, c'est la réflexion. Je dois me pardonner sans réfléchir. Cela ne dépend que de ma décision, pas de l'horreur de mon acte. Je dois décider que c'est fait. J'avais 10 ans, je jouais avec les enfants du village, on se jetait dans le lac du haut du surplomb, je n'y arrivais pas. Un gosse m'a dit « il faut sauter sans réfléchir ». J'ai obtenu ce vide dans ma tête et j'ai sauté. Il s'est passé longtemps avant que je me retrouve dans l'eau. J'ai adoré cette exaltation. Il faut que j'obtienne ce vide dans ma tête. Créer du rien là où sévit le vacarme. Ce qu'on appelle pompeusement « penser » n'est jamais qu'un acouphène. J'y suis, je me pardonne.
Le pardon, dirais-je presque cynique, le pardon scandaleux, n'est-ce pas ? Le pardon, non
sans
pas
raison.
Malgré l'injure, mais à cause de l'injure, parce que vous êtes un criminel. Eh bien, c'est le paradoxe chrétien. Moi, personnellement, j'ai pas été élevé dans cette religion-là, et pourtant, je comprends, j'apprécie, j'entre parfaitement dans ce paradoxe, dans ce scandale, comme disait Kierkegaard, ce paradoxe pascalien également, du pardon à cause de l'offense, et non pas malgré elle. À cause du crime, et non pas malgré... Si c'est malgré le crime, il y a une réticence. Je vous pardonne dès que vous soyez un criminel et un sauvage. C'est bien, c'est mieux que de me couper la tête. Mais si c'est malgré, il y a une réticence, il y a une arrière-pensée. Je suis un criminel, vous m'avez pas entièrement pardonné. Alors le chrétien pardonne parce que vous êtes criminel, parce que vous êtes un pauvre homme. Parce que nous sommes tous des pauvres hommes, des pauvres gens, n'est-ce pas, qui sont dignes de pitié. And we sat on our own star and dreamed of the way that we were and the way that we wanted to be. And we sat on our own star and dreamed of the way that I was for you and that you were for me. Oh. And then we longed to dance the night away, turning to each other saying I love.
J'y suis, je me pardonne. Personnellement, c'est l'un des moments que j'ai trouvé central dans votre texte, Amélie Nothomb. On entendait à l'instant Romain de Bec-de-Lièvre lire un extrait de votre texte « Soif » et juste après les voix mêlées de Jeff Buckley et de Vladimir Yankelevitch, comme le permet la radio. J'y suis, je me pardonne, parce que le crime, pour reprendre ce que dit Yankelevitch. Parce que, pour reprendre vos mots à vous, je me suis trompée.
C'est magnifique. Je veux dire que je ne connaissais pas ces paroles de Yankelevitch. Je suis encore en train de frissonner. Tellement c'est beau. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est évidemment. Il n'y a aucune réflexion là-dedans. Mais aucune logique. C'est même contre toute logique.
J'y suis.
C'est génial. J'y suis. J'adore.
Il y a une autre chose, et puis comme le temps passe, peut-être on n'ira pas en profondeur, mais on laissera les lectrices et les lecteurs découvrir, c'est que cette torsion que vous faites au texte sacré, ou même à la question du pardon, elle passe par la présence de femmes aimées. Alors bien sûr, la mère de Jésus, mais aussi Madeleine, qu'est-ce que vous, son amante, qu'est-ce que vous lui donnez comme, j'allais dire comme pouvoir, peut-être pas, mais comme... Elle est le vecteur de quoi ?
Oh, pour le coup, c'était juste une évidence. Comment est-ce que le champion de l'amour pouvait passer à côté de cet amour-là ? Pourquoi en l'occurrence, je n'avais même pas l'impression d'une audace. Hein. Je veux dire, Kazantzaki, c'était en 1953. Donc, évidemment que Jésus a fait l'amour. Enfin, pourquoi il ne l'aurait pas fait ? Ça aurait quand même été bien extraordinaire. Ça, vous imaginez, ça devait être un tombeur de la première importance. Il a dû en avoir des conquêtes.
Ou pas, on ne sait pas. En tout cas, il a fait l'amour. C'est l'idée qui vous importe le plus. Bah, c'est une façon encore de lui donner son corps, rappeler à son corps.
Pourquoi il n'aurait pas aimé avec son corps alors que selon moi, il était le plus incarné des hommes ? C'était un non-sens qu'il n'ait pas aimé avec son corps.
Lui, ça fait partie des choses sur lesquelles il s'est trompé, de ne pas avoir été justement voir Madeleine dans un des chapitres que vous écrivez ?
Oh oui, qu'il n'ait pas pris la fuite avec elle. Ça, c'est... Quelle erreur, quoi. Avoir choisi d'accepter la crucifixion, alors qu'il était quand même si facile de s'enfuir, c'est littéralement incompréhensible.
Vous lui pardonnez ?
Oh, ce n'est pas à moi de lui pardonner, c'est à lui de te pardonner. Je pense qu'il le fait.
Merci beaucoup, Amélie Nothomb. Soif est paru aux éditions Albin Michel.
Merci.
Svetlana sucks lemons across from me. And I am progressing abominably, and I do not know my own way to the sea, but the salty, yes, he knows its own way to me.
À la prise de son ce soir, c'était Manu Couturier, à la réalisation Lise-Marie Barré, Par les temps qui courent, c'est Jeanne Aléos, Romain de Bec-de-Lièvre, Marianne Chassor, Lucie Riandet, et pour aujourd'hui, un petit revival de Valentin. Franceculture.fr, la page de Par les temps qui courent, vous trouvez toutes les archives et les références musicales, ainsi qu'un lien vers l'abonnement au podcast. Très belle soirée, 22h, c'est le journal, bientôt sur France Culture.
Which is all that you can know on this side of the blue. And Jamie has eyes black and shiny as boots. And they march at you two by two, Raylou, Raylou. When she looks at you, you know she's no. Thank you. the signifiers, and we all fall down slack jaw to marvel at words. When across the sky sheet the impossible birds in a steady all that you can.